Et bonsoir à toutes et à tous, c'est le retour des voisines, après une longue pause quand même, j'avoue, mais ça y est, là, on reprend du service. Et pour cette reprise, eh bien, je suis avec un invité spécial, j'accueille Mathieu.
Bonsoir.
Mathieu qui bosse avec nous cette année sur le festival à venir, la troisième édition des Vilaines. Donc je rappelle les Vilaines Festival sur Instagram et Facebook. Et là aujourd'hui on va parler de Mathieu, ton activité, ta passion, car tu es dessinateur.
Alors je suis illustrateur.
Illustrateur, pardon, excuse-moi.
Plus précisément, voilà, du coup c'est mon travail depuis presque 3 ans maintenant, okay. En freelance.
Ouais. En freelance, bah, c'est ce que j'allais te demander, effectivement, bah, super, on va pouvoir parler de tout ça. Justement, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais en tant qu'illustrateur? Parce qu'il peut y avoir soit de la méconnaissance, soit des méconceptions, soit peu importe.
Alors, ce qui est cool avec l'illustration, c'est qu'en fait, c'est quand même un domaine qui est assez large. Donc,
j'imagine.
Ça va être principalement, ce qu'on appelle communément du dessin.
Mm-hmm.
En fait, ça va être surtout le médium, donc le support qui va principalement changer. Ça peut être d'illustration pour à côté d'un article dans un magazine, du puzzle, de la fresque murale, enfin, c'est quand même un truc hyper large.
Okay, oui.
Après ça va dépendre de chacun quel support il préfère. Moi j'avoue que j'aime bien avoir travaillé sur un peu tous les supports qui existent parce que je trouve que c'est des réflexions qui ne sont pas les mêmes à chaque fois, donc non, c'est très chouette.
La diversité, etc. Okay.
Ouais, c'est ça.
T'as un goal qui sort du
genre
lot.
Un projet que j'aimerais.
Ouais.
Je sais que j'ai commencé déjà à faire pas mal de fresques murales, mais mon kiff, ce serait vraiment d'en faire de plus en plus, enfin, vraiment des immenses.
Ouais. Pour habiller des vrais des bâtiments dans des villes,
ouais,
etc.
Ouais, c'est ça. Et puis, je sais que vraiment, moi, c'est un artiste que j'adore, c'est Keith Haring. C'est un artiste new-yorkais qui est mort en 1990. Donc là, le Centre Pompidou a fermé, mais je rêverais un jour, donc c'est très particulier et précis, que le Centre Pompidou, qui est mon musée préféré, fasse une expo sur Keith Haring,
okay.
Et que j'intervienne en tant qu'artiste, vu que je m'en inspire beaucoup pour faire en fait une sorte de déco, genre
oui,
entre
dommage.
Mon travail et le sien.
Ouais.
Donc,
trop voilà. Bien, ouais, ça serait archi stylé. D'accord, ok. On va reprendre aussi par le début du coup, mais le dessin, ça a toujours été un truc que t'as pratiqué et que t'as découvert tôt ou ça arrivait plus tard ou...
Non, j'ai toujours dessiné. Enfin, j'ai commencé les cours de dessin, j'avais 4 ans.
Ah oui.
Donc,
de ton initiative?
Alors, je pense que oui. Enfin, j'ai toujours une fibre artistique, même au niveau... Enfin, j'ai toujours kiffé les ateliers d'art, d'art plastique, que ce soit à l'école. Donc, du coup, je pense qu'aussi, peut-être ma mère voulait que je développe peut-être d'autres activités.
Oui, parce que ça se ressentait peut-être, mais 4 ans, c'est quand même déjà très jeune. Quoi.
Ouais,
enfin,
du coup, c'était pas non plus du cours de dessin académique. Je ne pouvais pas faire de la nature morte ou de la perspective, mais... Non, mais du coup, ouais, j'ai commencé par ça, et j'en ai fait, et du coup, après, j'ai fait des études, tout ça. Enfin, en fait, ça, là, en général, c'est ce qui me suit depuis, ça me suit depuis.
Depuis que t'es petit, ouais, donc c'est vraiment un truc, tu te souviens de quand t'as compris que, bah, en fait, ouais, ça allait devenir vraiment sérieux, ou ça l'a toujours finalement été?
En fait, je pense que j'ai pas eu de déclic. Genre, vu que j'ai commencé très tôt, ça a toujours fait partie intégrante de moi.
Oui, ça a toujours été une espèce
d'étude
d'évidence que
ouais,
t'allais dans tous les cas, d'une manière ou d'une autre, aller dans cette voie-là. Quoi.
Je voyais pas, à aucun moment j'ai pensé à un autre domaine, enfin, en tout cas, à travailler dans un domaine qui n'est pas dans l'art, en tout cas.
Ouais, ok.
Ça a toujours été inné, en tout cas, inscrit maintenant dans ma génétique, je pense.
Ok. Mais justement, j'allais te demander, tes parents, ils sont dans ce genre de milieu de base ou pas forcément. Pas du tout, même dans leur hobby?
Alors, dans leur hobby, enfin. Je sais que ma mère, elle a toujours été intéressée par tout ce qui est milieu artistique, les musées, tout ça.
Mm-hmm.
Elle est contrôleur de gestion. Mon père, elle est dans tout ce qui est centrale nucléaire. Donc
non,
c'est
effectivement,
pas vraiment,
c'est dans son éloigné.
Bah, après, c'est l'art des chiffres, on va dire. comme ça. Mais ouais, non. Bah, en fait, je pense qu'ils ont toujours quand même... Enfin, surtout principalement ma mère a voulu m'apporter une ouverture d'esprit, peu importe, que ce soit le cinéma, l'art, enfin, du coup, l'art en général, du coup.
Oui, t'as apporté une
culture.
Les
langues, tout ça.
Ouais,
du coup, je pense que c'est ça aussi qui a bien aidé... à moi m'amener là-dedans.
Oui, puis c'est super aussi du coup qu'elle ait eu le coup d'œil, on va dire, que directement aussi jeune, elle t'ait mis sur la, enfin, elle t'ait ouvert les portes à ce que t'approfondisses ce truc-là qui devait du coup déjà se ressentir jeune.
Ouais, je pense.
Donc ok, trop cool. Et qu'est-ce que t'as fait effectivement comme parcours du coup pour devenir illustrateur? C'est...
Alors, je vais peut-être j'ai pas fait d'études avec marqué en grand sur la porte illustrateur.
Ouais.
Moi, j'ai fait d'abord un bac, j'ai fait une seconde générale que j'ai pas du tout kiffé.
Ouais.
Je sais que moi, en tout cas, à l'époque, on me disait pas mais il y a peut-être d'autres filières que
non.
Des filières générales. Donc non, ça... Et donc en fait, bah, j'ai fouillé par moi-même et je suis tombé sur la filière art appliqué. Mm-hmm. C'est un bac techno, avec une base de matière générale et du coup des heures d'atelier où on apprend tous les métiers du design.
Trop bien, ok.
Donc le design, enfin du coup, c'est, on apprend de la mode, on apprend le graphisme, on apprend l'archi. Enfin, c'est une ouverture du coup à tous ces milieux-là. Donc ça, j'ai vraiment trop kiffé. Après, je suis parti faire un BTS design d'espace.
Okay.
Où, du coup, là, j'ai un peu resserré sur du coup le paysagisme, mm-hmm. la scénographie, tout ça. Et après, j'ai commencé une école d'archi à Rennes.
Oui, ok, t'as fait une école d'archi. Okay. Voilà.
Mais j'ai pas trop apprécié. Enfin, ça m'a pas plu non plus ou pas. Enfin, en tout cas, j'ai pas trouvé. Ça n'a pas résonné avec moi. Et donc, du coup, j'ai arrêté. Puis après, il y a eu le super Covid. voilà, qui est arrivé. Et du coup, pendant. Voilà. Et du coup, ça, c'est un peu mon parcours. J'ai fait des jobs à droite, à gauche aussi entre temps. En tout cas, ouais, j'ai toujours fait des études dans l'art et le design en général.
D'accord, ok. Et du coup, illustrateur, c'est. Donc, t'as dit que t'es en freelance.
Ouais.
Le freelance, pareil, justement, éclaire un petit peu spécifiquement ce que ça engendre, ce que ça veut dire.
Alors, le freelance, c'est. Du coup, je bosse à mon nom. Enfin, en fait, c'est comme si j'avais mon entreprise. Mm-hmm. Où, du coup, bah, c'est, je suis mon contrôleur de gestion, je suis ma
ton
RH,
patron,
je suis mon patron, je suis. Enfin, du coup, j'ai un peu tous les rôles. Du coup, c'est très chouette parce que j'ai une maîtrise totale de la façon dont je me vends. Mais du coup, d'un autre côté, j'ai aussi une charge qui n'est peut-être pas forcément. Enfin, qui est peut-être forcément plus lourde que certains. Mais en vrai, oui. En fait, je trouve que la freelance, en tout cas, faut pas le faire quand on n'apprécie pas ce qu'on fait. Je sais que moi, je le fais parce que ça me permet de vivre de ma passion. Donc, je vois pas ça non plus comme un point négatif. Mais du coup, c'est vrai que j'ai pas le 35 heures par semaine.
Non, bien sûr.
Donc, après, c'est des choix aussi à faire. Mais ça, quand même, me donne une liberté sur avec qui je travaille. Sur enfin je peux quand même aménager mon emploi du temps aussi assez enfin après ça dépend il y a des semaines où je peux pas aménager mon emploi du temps comme j'avais envie mais ça me permet ouais de faire des projets qui
oui comme tu l'as dit d'avoir une maîtrise et une une liberté de d'organisation de choix etc.
Exactement.
Etc. Donc ok écoute, je te propose que là, pour l'instant, on fasse juste une micro-pause musique.
Allez.
Pour aller un peu plus dans ton univers et puis on revient ensuite parce qu'évidemment il y a plein de questions qui suivent. Are you ready? Are you ready? I hope you're ready. Are you ready? 'Cause I am. Said I'm ready to party. Yeah. Grab your coat. Get your keys. 'Cause whatever you're drinking, it's on me. It's on me. Stand if you want to. Stare if you want to. But I got to party. I need me a party. But I can't wait to grab me a partner and cut a rug off tonight, yeah. Find a place where we can boogie. Boogie tonight. I found a place where we can boogie. Boogie. I'll be ready. Here we are. Say we're off to the party. Yeah. Let me wet my throat. Get two or three, then it's off to the dance floor. Follow me. Stand if you want to, stare if you want to. But I got to party, I'm up in the party. I'm glad that I got you, and it's alright. You got you a partner, and cut a rug off tonight. Ain't this party? Et bonsoir de nouveau à toutes et à tous. Vous êtes avec les voisines sur RVE 103.7. C'était Boogie Tonight de Booty Love, donc choisi par Mathieu. Mathieu, notre invité.
Rebonsoir.
Donc, on a parlé là des bases de ton métier d'illustrateur, de comment t'en es arrivé là, de que ce soit et ton rapport au dessin et ensuite ton parcours éducatif et professionnel. Du coup, là, ouais, je voudrais rentrer plus dans ton processus créatif et tes inspirations. Déjà, question un peu difficile, entre guillemets, comment tu décrirais ton style sans, du coup, pouvoir montrer d'image ?
Alors, mon style, déjà, il met la plupart du temps en avant un personnage qui, lui, sort de mes études en architecture. Donc, ça s'appelle un grouillot. C'est ce qu'on utilise du coup en archi pour donner l'échelle humaine sur des coupes, sur des plans, pour du coup voir l'humain par rapport au bâti. Et moi, je les ai amenés dans un côté beaucoup plus illustratif, justement. C'est des petits personnages qui ont une tête, mais qui n'ont pas d'œil, de nez ou quoi.
Pas de visage.
De visage, voilà, c'est ça. Qui n'ont pas de couleur de peau, parce que je voulais quelque chose de non-genré, qui représente
pas... d'identité, quoi.
C'est ça, en fait, où du coup, qui permettent à tout un chacun de s'identifier.
Ouais.
Et après, je mélange du coup ce personnage, je le fais intervenir dans des univers très colorés. La plupart du temps, je mets beaucoup en avant le végétal parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Mm-hmm. En tout cas, ça me parle, tout ce qui est le floral, végétal, c'est une grosse source d'inspiration. Donc, c'est beaucoup autour de la rêverie, très onirique, colorée. Et des fois, je viens quand même y greffer aussi des éléments que j'ai gardés de mes études en design. Je viens beaucoup, des fois, dessiner du coup des mobiliers de designer, genre principalement des chaises ou des lampes qui m'intéressent. Donc, je viens en fait greffer tout ce que j'ai appris via mes études aujourd'hui dans mon...
Oui,
dans
tout
mon...
ce qui te parle, puis en fonction du projet, etc.
Exactement.
Ok, et justement, du coup, est-ce que tu dessines plutôt instinctivement ou est-ce qu'il y a beaucoup de préparation pour ensuite te mettre à dessiner ou tu fais un mélange des deux ?
Bah, ça va dépendre. En vrai, principalement, c'est plus des... Enfin, d'un coup, je me dis, ah tiens, j'ai envie de dessiner un truc comme ça, donc je fais des recherches, je fais des croquis, je passe toujours par papier. Pardon. Voilà, du coup, c'est vraiment...
Donc c'est plus instinctif, parce que même si t'as de la préparation, dans le sens où tu fais plusieurs croquis avant de faire le résultat final, t'es quand même sur un truc où tu vas aller directement
C'est des
gratter
choses que
le papier,
c'est ça.
Comme on dit.
Je peux voir des choses dans la rue, je me balade, je sais que j'ai toujours un peu le regard à droite à gauche, j'essaie toujours de chercher l'inspiration, que je le veuille ou non. Donc du coup, des fois, je me dis, ah tiens, ça c'est une forme un peu chouette, je pourrais trop la reprendre en la mettant comme ça ou quoi. Donc non, l'inspiration est partout.
Et tu bosses avec quel cadre ? Tu bosses déjà, est-ce que tu bosses chez toi ? Est-ce que tu bosses dans des espaces de, comment on appelle ça, de coworking ? Est-ce que tu bosses peu importe ?
Alors, je bosse la plupart du temps de chez moi. J'essaie quand même de plus en plus de mettre un rythme parce que la freelance, c'est quand même assez rapide quand on bosse de chez soi de trouver des éléments un peu perturbateurs.
Ouais, bien sûr.
Donc, du coup, j'essaie de me mettre ça. Après, j'ai la chance d'avoir quand même pas mal de potes qui sont aussi en freelance, donc on se fait de temps en temps
des sessions.
Bon, c'est pas les plus productives, mais au moins ça permet d'un peu de faire du social, on va dire, parce que c'est quand même un métier qui est très solitaire.
Forcément, si t'es chez toi, y a pas trop.
Et
de...
c'est pour ça que j'essaie maintenant de développer aussi des parties où je donne des ateliers pour d'autres, parce que du coup ça me permet moi de sortir et forcément de voir du monde, donc c'est toujours intéressant. Mais c'est la plupart du temps chez moi, j'essaie de me mettre un cadre quand même niveau horaire. Pour essayer d'être le plus productif possible quand même.
Et tu préfères bosser dans le silence ou avec de la musique qui peut t'inspirer aussi ?
J'ai toujours un fond sonore.
Ouais, ok.
Travailler dans le silence pour moi c'est un peu impossible. Enfin, okay. La musique, que ce soit principalement de la musique, je vais toujours avoir. En vrai, c'est souvent du jazz, j'aime bien travailler sur du jazz.
D'accord,
donc,
ok.
Voilà, c'est un petit truc.
Ok. Est-ce que tu sais quelle est la partie du processus de création qui te plaît le plus, qui t'inspire le plus ?
C'est dur comme... En vrai, c'est un peu dur comme question. Parce que, en fait, je trouve... Je vais faire la réponse bateau. Toutes les phases sont intéressantes, mais parce qu'elles sont toutes vraiment différentes les unes des autres. T'as la partie croquis, recherche, où ça va être vraiment plus une sorte de brainstorming, où tu vas un peu partir dans tous les sens pour essayer de trouver la meilleure idée, la meilleure composition dans le format que t'as. Après, t'as l'ancrage de tout ce croquis-là, où tu commences, du coup, à fignoler et à avoir vraiment le visu presque final de ton illustration. Et après, t'as la couleur où, du coup, c'est vraiment, ça permet de donner vraiment plus de vie encore. Donc, je trouve que c'est très... en vrai, allez, je vais dire quand même le croquis parce qu'il y a une partie
C'est la création pure.
C'est ça. Donc, même si la couleur, je trouve ça sympa. Et l'ancrage aussi. Mais non, on va dire le croquis où c'est vraiment où l'éclate, où du coup, tu fais plein de recherches de partout, tu cherches plein de références, t'es vraiment dans un truc hyper créatif pour le coup.
Ouais, un truc où t'es vraiment connecté à la création, quoi. Ok, et pour conclure cette partie avant de lancer la pub, est-ce que t'as un dessin ou un projet dont tu es particulièrement fier à l'heure d'aujourd'hui?
Alors je pense que j'en ai deux. J'ai fait une fresque pour l'usine à chapeaux dans leur nouveau local de la Louvière, que c'est du coup la plus
grande. Donc à Rambouillet.
C'est ça, à Rambouillet. Voilà, c'est pas très loin. et du coup, c'est une fresque, la plus grande fresque que j'ai faite actuellement, que du coup sur le thème très, enfin c'est très floral. Ça, je suis très content. Et après, sinon, j'ai fait un puzzle aussi avec les éditions Éole. Donc c'est une marque bretonne et ça aussi je trouve ça vraiment très chouette.
Oui, ça doit être utile de faire un
puzzle. 1000 pièces, un puzzle adulte un peu compliqué.
Ok.
Mais ça aussi c'est un projet que j'ai vraiment adoré faire.
Ok. Bon bah trop bien. Restez avec nous du coup parce que la conversation est loin d'être terminée. On se refait une petite pause musicale avec une pub et on vous retrouve tout de suite. Donc là on écoute 1962 de Djibouti ou DJ Djibouti.
Djibouti, je sais pas comment on va dire. On va dire Djibouti. S'il nous entend, désolé.
I never thought I would get the opportunity to meet.
Toutes et à tous, toujours avec les voisines, avec Mathieu.
Bonsoir.
D'ailleurs avec Thomas, la réalisation aussi que je n'ai pas présenté ce soir. Bon, Thomas qui fait coucou. et donc c'était Boogie Tonight de Booty Love. Pas du tout, c'était 1962 de Djibouti. Donc on parlait de ton processus créatif et tout, ouais. J'ai oublié de te demander avec quoi tu travailles comme outil ? Avec tout ? Avec du crayon principalement, ou du stylo bic, ou des feutres, ou de la peinture, une tablette graphique ?
Alors moi je vais d'abord, mon outil principal ça va être la tablette graphique. Je vais quand même d'abord faire toutes mes recherches sur papier. J'ai okay. toujours besoin de ce début-là, recherche papier, parce que après c'est personnel, mais à force de zoomer, dézoomer sur mon iPad, j'ai un peu du mal à m'y retrouver.
Ouais, ok.
Donc du coup c'est toujours sur du papier. Après je passe sur la tablette graphique où du coup je reprends tout mon croquis, toutes mes recherches. Ouais. Mais après du coup pour de la fresque murale ça va être de la peinture, je peux aussi sur de la toile, je peux faire de la céramique,
Oui pour le rendu final bien sûr, mais c'était plus effectivement pour la phase croquis, création.
La phase croquis c'est papier, mais après ouais, et principalement okay. mon outil de prédilection, enfin en tout cas en top 1, ça va être iPad avec l'appli Procreate.
Ok, d'accord. Ouais. Ok. Tu as parlé du coup du fait que tu faisais des ateliers, etc. etc. Est-ce que tu as un atelier en particulier qui t'a marqué?
Je sais que les ateliers, moi, ça me permet déjà de sortir du coup de ce côté très solitaire qui est la freelance. Alors, un truc qui m'a marqué, c'était il y a deux jours. En fait,
très récent.
Oui, c'est ça. J'ai fait un atelier à l'abbaye des Vaux de Cernay. Du coup, c'est quand même un lieu qui est quand même assez particulier, enfin, qui accueille quand même des personnes assez particulières, on va dire.
Oui,
en tout cas,
exactement. Et donc, des gens qui ont les moyens.
En fait, on m'a prévenu que ça allait être un atelier que en anglais. C'est la première fois que je drivais parce que je passe en freelance par une boîte.
Ouais, ok.
Du coup, là, on m'a dit, tu vas driver tout l'atelier, ça va être tout en anglais. Et en fait, j'ai appris 10 minutes avant que c'était pour l'anniversaire d'Eva Longoria.
Mais non.
Donc, du coup, c'était un peu...
T'as eu la pression ?
En fait, déjà, c'était le premier atelier que je drivais tout seul. Donc déjà, je me mettrais une pression tout seul. Et quand, en plus, on me dit 10 minutes avant... Ah oui, d'ailleurs, c'est pour...
C'est l'anniversaire d'Eva Longoria.
C'est pour son anniversaire. Du coup, c'est un peu, encore un peu plus stressant. Mais en vrai, ça s'est très, très bien passé. C'était vraiment très, très cool.
C'était quoi comme atelier ?
C'était un atelier peinture où en fait on les fait travailler autour de Keith Haring, donc en plus moi ça me va très bien,
Moi
l'artiste préféré. Et en fait ils doivent autour d'un thème, soit qu'on leur impose, soit, enfin en tout cas là c'était pour du privé donc c'est eux qui choisissent un peu le thème, ils font une ou deux toiles du coup autour, en reprenant un peu le travail de Keith Haring sans copier parce que j'ai pas envie qu'ils fassent du copier-coller, c'est qu'une inspi. Mais du coup voilà, donc c'était très très drôle à faire. Enfin,
d'accord,
vraiment, c'était hyper particulier comme expérience.
Ça devait être, oui, c'est, je te jure, déjà très dans
lunaire.
Un cadre, ouais, c'est
très
ça,
lunaire,
sans que tu t'y attendes en plus, non. Et tu fais un atelier avec Eva Longoria. Bon,
donc, voilà.
D'accord,
mais elle est très
okay.
gentille, c'est jamais.
Et justement, est-ce que du coup t'as d'autres inspirations que Keith Haring?
En fait, il va y avoir le Basquiat, enfin après ça va être un peu le mouvement pop art avec le Studio 64. Où c'est du coup des couleurs vives. Enfin, je sais que moi au début je travaille que sur du noir et blanc, et là ça fait quand même 2 ans où je suis passé vraiment sur de la. J'avais besoin de couleurs dans ma vie.
Ouais.
Ça comme ça. Du coup voilà, il y a ça. Après va y avoir d'une Nikki de Saint-Phal. J'aime beaucoup son travail.
Tu peux, ouais, parce que là tu viens de dire que c'était avec des couleurs. Effectivement, je me rends compte qu'effectivement on parle d'artistes que moi-même je ne connais pas. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots du coup
déjà,
les styles.
Keith Haring, lui il est très connu.
C'est Keith du
Keith,
coup donc
K-E-I-T-H,
voilà,
ouais.
Et Haring,
H-A-R-I-N-G.
Okay,
c'est un artiste new-yorkais qui, du coup, est mort très jeune du sida.
Aïe, ouais, d'accord.
Et aujourd'hui, en fait, il a la fondation Keith Haring. Du coup, il l'a mise en place avant de mourir, justement, pour du coup, tout ce qui est récolte de dons va
pour
du
le
coup,
sida,
à la recherche. Et lui, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il travaillait déjà principalement sur. En fait, à New York, à l'époque, quand les billboards, enfin, les panneaux publicitaires, ils étaient noirs quand il n'y avait pas de pub dessus. Donc, en fait, lui, il venait avec une craie blanche dessiner des petits personnages.
D'accord, ok.
Très stylisés. Et donc du coup, c'est ce côté un peu innocent et très simple de Keith Haring où quand on passe très très vite à côté de son taf, on comprend en fait l'idée générale de
ce qu'il essaye de véhiculer. Ouais.
C'est ça.
Ouais, ouais.
Après, Basquiat, lui c'est plus, enfin c'est très abstrait et en même temps un peu figuratif, mais c'est assez particulier. Son travail c'est B-A-S-K-I-A-T, non Q-U-I-A-T. Si je dis pas de bêtises.
Ouais.
Et donc du coup, son travail il est assez compliqué à c'est compliqué de le résumer, mais du coup, si vraiment vous êtes intéressé, je vous invite à le voir. Après, il est quand même assez connu aussi. Après, Nikki de Saint-Phal, elle, c'est une artiste qui, par exemple, il y a la fontaine Stravinsky à côté du Centre Pompidou.
Ouais, ok.
Elle travaille beaucoup autour
donc
des personnes.
C'est elle qui l'a fait, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, avec un musicien. Et elle travaille principalement aussi des personnages qui s'appellent les nanas. Du coup, c'est des femmes très enrobées.
Ok.
Du coup, avec des formes très, très rondes. Et beaucoup de couleurs. Et je trouve qu'elle avait un point de vue aussi sur l'art qui était très intéressant, mais après, si les gens sont intéressés,
je les laisse aller faire
les recherches, parce que bon, on va pas non plus parler pendant des heures du point de vue sur l'art de Nikita Saint-Fel.
Non, mais par contre, du tien, ça m'intéresse, parce que c'était une de mes...
Mon point de vue sur l'art.
C'était une de mes questions, ouais, de la place de l'art aujourd'hui, et puis de... Dans les quelques études que j'ai pu faire, etc., j'avais pris à un moment donné une option, je n'y étais qu'une fois, dommage parce que c'était très intéressant, mais où justement c'était, je sais même plus ce que c'était comme professeur, dans quelle discipline, etc., okay. Mais je sais qu'il débattait et il enseignait du coup le but de l'art en fait, de est-ce qu'il y a un but à l'art, de oui et non, parce qu'il y avait des arguments qui disaient que oui, mais il y avait aussi d'autres qui disaient que non, et c'était pas des oppositions, c'est que tout était
oui,
vrai
ensemble,
en fait, exactement.
Bah, en fait je pense que ça dépend déjà où on se positionne par rapport à l'art, si on est le créateur ou le receveur, je trouve. Quand nous on est le créateur, oui il y a un but parce qu'on veut véhiculer des infos, enfin surtout dans le métier, en tout cas aujourd'hui moi dans les projets que j'ai, avec, bah, forcément j'ai quelque chose à véhiculer,
Par rapport à tes clients,
moi c'est pour de la communication quoi. Après moi quand je dessine pour des choses perso, bah en fait juste je me fais kiffer dans mes illustrations qui sont pour moi.
Tu te fais kiffer du coup dans quel sens? Est-ce que c'est des choses qui te permettent d'être un exutoire et de mettre des émotions sur papier? Est-ce que c'est une question d'imaginaire, de créer des mondes ou de créer des ambiances, des...
Bah je pense que c'est un tout. Enfin après je suis pas là sur mon papier en disant ah, je suis énervé.
Ouais.
Genre je griffe pas en mode genre je vais tout évacuer. Non, après peut-être que je le fais inconsciemment, mais en tout cas je suis pas dans un truc très série américaine.
Non, ouais, c'est juste un truc.
Il y a juste de la peinture sur tous les murs et je suis dans un coin dans ma chambre en disant c'est bon, j'ai évacué.
Non, puis c'est peut-être pas autant conscientisé, cérébralisé.
Oui, c'est ça. Je sais que même quand je fais des projets pour des entreprises, j'essaie quand même, enfin heureusement d'ailleurs, d'y trouver mon compte et en
bien
fait
sûr,
d'apprécier
de
ce que je fais parce que je trouve que ça fait partie intrigante du métier.
Bah, il faut, enfin,
on fait appel à moi pour un style, donc du coup, pour une façon de créer.
T'es illustrateur, t'es pas une machine et un robot.
C'est ça.
Quoi.
Merci. J'espère un jour. J'espère que ça n'arrivera pas. Mais et après, sinon, et du coup, je disais aussi qu'en fonction de si on est créateur ou receveur, je trouve que quand on reçoit l'art, on n'est pas obligé que c'est un sens. En fait, enfin, moi, je trouve que
je
des fois, quand je fais des expos, juste je prends ce que je vois. C'est pas mon style, enfin ça me touche pas, c'est pas grave, ça me touche tant mieux, mais je trouve que c'est une pause mentale aussi des
oui,
fois.
Oui, voilà, en fait ça peut être de la contemplation,
c'est ça.
Même si c'est comme tu l'as dit, de la contemplation qu'on n'apprécie pas forcément. Moi je vais rentrer là dans le lien que je suis en train de faire avec mon expérience, etc. Ouais. Mais j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette émission du fait que ça fait 5 ans maintenant que je suis une thérapie spécifique. Je sais même plus si j'avais déjà donné la méthode, mais ça s'appelle la méthode Vitose. Et en fait, ça se centre beaucoup sur le fait de revenir à son corps, de revenir dans ses sensations. Et du coup, ma psy me fait régulièrement faire des exercices quand je suis trop en ébullition émotionnelle ou cérébrale, où elle me fait fermer les yeux, revenir dans mes sensations corporelle et ensuite sortir de juste cette bulle mais revenir dans l'instant présent en faisant de la contemplation, en fait, enfin c'est pas le mot qu'il utilise dans sa méthode, mais c'est ça, en faisant de la contemplation de la salle autour de moi, etc., puis de m'arrêter sur un objet que je choisis, juste de m'arrêter puis de regarder les détails, etc., etc. Et donc c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça quand t'as dit ça permet de faire une pause mentale. Effectivement, il y a un vrai truc juste physique en fait du
c'est
cerveau
ça.
Là-dessus
en fait, et puis après ça dépend aussi où jusqu'où on veut aller, enfin moi je sais pas, genre je vais avoir une œuvre qui me touche, oui forcément je vais aller avoir envie de d'en savoir un peu plus sur est-ce que du coup quel était l'engagement de l'artiste derrière, qu'est-ce qu'il a voulu dire par son message derrière, parce que
s'il y a un message comme tu l'as dit,
c'est
en
assez
général,
rare qu'il y en ait pas.
Ouais.
Après c'est des messages qui, c'est pareil en fait, genre c'est des messages qui peuvent plus ou moins nous toucher, mais en fait je trouve que l'art faut le prendre comme il vient et comme il nous vient précisément, faut pas non plus en fait aller se forcer à du coup à être touché par de l'art ou pas, enfin c'est pas, enfin l'art il y en a pour tous les goûts, enfin
exactement.
Aujourd'hui il y a un éventail de créations,
des formes d'art très 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 large,
il y a de tout, parce que le cinéma c'est de l'art, la poésie c'est de l'art, enfin du coup
oui, bien sûr
chacun peut trouver vraiment
son
forme
compte.
Qui lui compte, enfin qui lui
qui
convient
lui touche,
en tout cas.
Et ouais, je suis complètement d'accord, mais j'aime beaucoup ce que t'as dit, de prendre l'art comme il nous vient, etc. Tout à fait. Tu as déjà eu des moments de page blanche ou de doute même?
Après, oui, surtout quand tu fais de la freelance, du coup, vu que t'es un peu livré à toi-même, en fait, vu que c'est toi qui gères un peu tout, forcément, t'as des moments où c'est beaucoup plus compliqué à gérer, en question de rentrée d'argent ou quoi, donc forcément, tu me dis, mais est-ce que du coup j'ai choisi vraiment la bonne voie? Est-ce que du coup j'ai...
Oui, parce que t'es confronté à des difficultés qui n'auraient pas été si t'avais choisi une autre voie, quoi.
Oui, c'est ça. Donc ça vient avec le package, on va dire. Mais après, je me dis, oui, il y a des moments où je vais avoir la page blanche, mais avec le recul, je me dis, heureusement que des fois j'en ai.
Bah, bien sûr. Oui, oui.
Parce que du coup, ça me fait me rendre compte que, j'ai besoin de sortir pour créer mes propres références internes dans mon petit cerveau.
Oui, oui, ça fait entendre le message que c'est en train de t'envoyer, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis, du coup, bah, c'est pas grave. Enfin, je suis pas une machine et que j'ai pas.
De faire une pause.
J'ai besoin aussi, des fois. Enfin, c'est pas grave si j'arrive pas à sortir un truc pendant une journée parce que.
Bah, ok.
C'est la vie, quoi.
Ouais, clairement. Donc, clairement, c'est la vie, c'est le cerveau, complètement.
On a tous des jours plus compliqués que les autres, donc. Mais comme tout le monde.
Ouais, ouais. Ok. Et justement, est-ce que tu ressens parfois une pression à produire quelque chose à aller vite, ou même des pressions de... Enfin, j'imagine que t'as déjà été confronté, peut-être pas après, peut-être que tu choisis très très bien tes projets, mais à des projets qui te correspondaient pas tant que ça, et donc du coup...
Bah, pour l'instant, j'ai eu la chance d'avoir des projets où j'arrive à tourner le truc pour que j'y prenne le plus de plaisir. Après, ça passe par des échanges avec les clients de toute façon. C'était quoi la question au début, j'ai plus...
De si t'avais déjà ressenti, enfin j'imagine que oui, mais donc une pression à produire, en fait.
Bah, en fait la pression sur la production, je pense que ça va être plus pour les réseaux sociaux, parce que forcément c'est un métier d'image. Je me montre du coup sur mes réseaux pour montrer que du coup,
bah, c'est ton portfolio, c'est là où tu te vends.
Il y a une personne derrière, mais du coup il y a une pression qui est du coup mise par défaut par les réseaux sociaux, où il faut que tu postes un minimum parce que sinon t'es plus vu, t'es pas plus loin en avant. C'est une question d'algorithme. Donc oui, forcément, des fois, c'est horrible à dire, mais et en vrai, j'aimerais bien arrêter un peu ça, mais du coup, je poste des trucs pour poster. C'est pas forcément des trucs, donc je suis plus fier. Genre, je suis content du résultat, mais bon, je me dis, bon...
Oui, c'est pour
en vrai, ça sert à rien.
D'accord.
Il y a des illustrations.
Ça apporte rien de plus que ce que t'as déjà fait.
Qu'elle soit là ou pas là, c'est pas grave.
Mais c'est juste histoire de rester dans le truc, que l'algorithme t'oublie pas, quoi. D'accord.
En vrai, c'est vrai que ce côté-là, il est un peu compliqué à gérer, parce que du coup, quand t'as les comptes créateurs, t'as tous les pourcentages, les stats de droite à gauche. Donc forcément, à peine t'ouvres l'application, déjà...
Ouais.
Tu sais que
t'as déjà des statistiques de compétition avec toi-même sur... J'avais d'autres questions, j'aurais dû les poser plus tôt, mais c'est pas grave. Parce que tout à l'heure, donc, on parlait de l'art et de ton rapport à ça, du sens ou pas, etc. etc. Et justement, du coup, toi, qu'est-ce que tu... Alors, ça dépend encore une fois, mais... Sur des projets qui sont moins clients, du coup, sur des projets qui sont peut-être plus perso, ou en tout cas, tu peux mettre plus du toi, qu'est-ce que tu veux véhiculer aux gens qui vont les voir? Ce que tu veux leur faire ressentir?
Bah, en fait, je sais pas si j'ai... quand je dessine des illustrations, ou quand je fais de la... Enfin, je fais aussi de temps en temps des petites animations 2D... je m'assois pas en disant ok, je veux que via cette illustration les gens ressentent ci ou ça. C'est je le fais enfin les illustrations que je fais à côté de mes projets, je les fais d'abord pour moi, parce que du coup ça me permet en fait déjà de m'entraîner sur certaines nouvelles représentations que je peux faire de certains éléments, et en plus de ça, moi ça me permet de sortir un peu de ce côté ok, j'ai une illustration que j'aime bien faire, mais du coup qui reprend logiquement des codes ou des...
Oui, des attentes éléments, qui sont pas les tiennes, et des contraintes finalement que tu n'aurais pas dans tes... Oui.
C'est ça, et donc du coup, déjà je me fais juste kiffer, et après c'est bien reçu, tant mieux, personne le voit, tant pis, enfin...
Ouais, ok. Et t'as pas... J'essaye de reformuler la question du coup, mais pas qu'est-ce que tu essayes de mettre de base alors, mais qu'est-ce qui te ferait plaisir que les gens se disent ou ressentent devant ton travail?
Juste qu'ils trouvent ça joli. C'est vraiment une réponse un peu d'enfant, mais pas joli, mais juste...
Que ça leur parle.
Moi, j'essaie de faire un truc qui est quand même assez dynamique, avec de la couleur et tout, donc que ça fasse peut-être une pause un peu dans le quotidien.
Oui, que ça fasse un peu de bien, quoi.
Ouais,
avec
c'est ça,
les
genre
couleurs
que ça lâche un peu
d'endorphine,
peut-être,
ouais, c'est
je sais pas. Mais ouais, que je sais pas,
le
les gens...
Fait que, oui.
Ouais,
d'où le fait
là,
que
genre,
ça
ah, c'est
joli.
Chouette, c'est sympa.
C'est un petit rayon de soleil.
J'ai pas envie qu'ils se disent, oh là là, mais il est en train de combattre tous les malheurs du monde via ce truc.
Ça me rappelle, là, ce qui est en train de se passer dans le monde en ce moment.
Peut-être que je peux le faire, mais en tout cas, c'est pas le but principal.
Non, ouais, ouais.
C'est ce que je fais.
Ok. Et ben écoute, je te propose qu'on passe sur du coup la dernière partie de cette interview.
Avec plaisir.
C'est-à-dire, tu m'as suggéré qu'on parle d'un sujet très actuel dont on parle beaucoup, mais ouais, effectivement, c'est important d'en parler, et en particulier du coup avec des gens que ça concerne directement. Évidemment, ce sont des intelligences artificielles, en particulier dans les domaines artistiques. Toi, du coup, c'est quoi le premier truc qui te vient quand là on aborde le sujet ?
Bah en fait, je sais que j'ai voulu là aborder ce sujet parce que c'est avec la mise à jour de ChatGPT, enfin OpenAI, qui maintenant tu peux générer du coup des images.
Ok, je savais pas ça. Ok.
Et en fait, enfin, le premier truc moi, enfin, qui a un peu fait trembler le milieu de là, c'était toutes les photos qui ont été reprises dans le style Studio Ghibli.
Oui.
Donc principalement de Hayao Miyazaki. Et du coup, je trouve que ça vient toucher en fait une question du droit d'auteur.
Ouais.
Alors, il y a des questions du domaine public, après, en fonction des pays, déjà, c'est pas les mêmes non plus. Mais ce qui est compliqué, c'est que du coup...
Peut-être une question de propriété intellectuelle, alors.
C'est ça, mais, mais du coup, après, quand on l'amène sur un point de vue plus général, c'est que du coup, tous les artistes, du coup, ça veut dire que tu tapes le nom d'un artiste, tu peux récupérer son travail sans qu'il l'ait fait vraiment lui-même. Donc, du coup, c'est un peu compliqué, je trouve.
Ça invisibilise la personne, en fait.
Ce qui est compliqué, c'est que du coup, tu sors un travail qui n'a pas du tout le côté hyper réfléchi.
En plus.
Créatif, le travail. Parce que, en fait. Oui, l'illustration, ce que les gens peut-être voient, c'est, l'illustration, c'est pas. C'est
que
un produit fini. Enfin, y a pas tout,
oui, les gens, ils voient que le style. Ouais. Et, oui, comme tu dis, parce qu'effectivement, l'IA, forcément, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va juste aller prendre du coup, des éléments spécifiques de plein d'œuvres de cet artiste-là qu'elle va mettre ensemble. Et...
Oui, c'est ça, c'est un assemblage, un grand puzzle.
Exactement.
Après, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas faire. Et puis même moi, je suis le premier à utiliser de l'intelligence artificielle pour faire certaines choses, mais du coup, je suis pas là à brandir mon flambeau en disant je vais brûler,
brûler
tous les serveurs.
Okay.
De mon petit niveau, ça sert à rien de toute façon. Donc, autant faire avec, mais du coup, je pense que nous, en tant qu'artistes, on a ce devoir de sensibilisation.
Mm-hmm.
En fait, ce qui est compliqué aussi, c'est que l'intelligence artificielle et tout, du coup, ces nouveaux outils, ça nous a été un peu donné comme ça, sans réel accompagnement.
Ouais.
Sans peut-être du coup montrer en avant les impacts, les dangers que ça peut avoir, parce que, moi déjà en tant qu'illustrateur, et en plus en tant qu'illustrateur qui utilise la nature comme une immense source d'inspiration et de référence, alors comment dire que, en plus, en voyant tous les impacts environnementaux que ça a derrière,
c'est ça.
Je suis là genre, voilà. peut-être faire gaffe,
parce
que pour une trend qui dure 2 jours et demi, on s'en fiche que Sophie ait pas fait son starter pack aussi, personne ne va être là, mais attends, t'as vu le starter pack de Sophie qu'elle a fait ? Elle a mis qu'elle a utilisé son téléphone, mais c'est pas vrai. Donc enfin, et du coup, justement, en parlant des starter packs...
Mais en fait, ça parle, là, tu parles, toi, de, tout simplement de des conséquences, enfin, comment on appelle ça, du...
En fait, je trouve que ça...
Du coût conséquence par rapport à l'utilité que ça a de base, quoi, de faire la prévention sur la réflexion. Effectivement, je pense que, comme tu l'as dit, il n'y a pas eu de mode d'emploi à nous donner ces outils-là, etc., etc. Ils auraient sûrement pu faire plus, mais jusqu'à un certain point aussi, parce que c'est comme tout, quand t'as un nouveau truc qui sort... On se rend compte de ce qui se passe et des dangers parce que les gens les utilisent. Mais effectivement, là, j'espère qu'on est vraiment en train de prendre un virage rapide, du coup, et tant mieux pour une fois. Mais sur le fait que tout le monde se remette un peu en question sur son utilisation de l'intelligence artificielle, moi aussi, j'utilise beaucoup ChatGPT quand j'ai des recherches à faire et que je lui demande, du coup, en fait, de me les faire pour moi plus rapidement que moi, aller sur 56 sites internet différents pour trouver les informations que je vais regrouper toute seule et tout. Évidemment, c'est vachement plus rapide. Mais effectivement, là, on est de plus en plus à l'entendre aussi, les impacts écologiques que ça a, l'eau que ça demande et tout.
Ce qui est compliqué, moi, je trouve, comme tu dis, mais en fait, ChatGPT, il peut aussi, déjà, par exemple, aller voir Essai Mistral, qui est notre ChatGPT français. En tout cas, environnemental est quand même moins coûteux en énergie. Mais c'est que, je suis le premier aussi, à utiliser Mistral pour des recherches, mais j'ai pas arrêté ce côté de croiser quand même des recherches, parce que qui me dit que ce qui...
Oui, il y a aussi toujours le risque qu'il est fiable à 80%,
peut-être
70%, mais effectivement, c'est ça.
Il y a toujours ce côté-là. Et puis je trouve que en tout cas, si on revient sur le côté artistique, quand on fait des recherches via ces images-là, en fait, ça crée une uniformisation, je trouve, du rendu.
Aussi, ouais.
Parce que, je sais, ben, par exemple, je peux demander, bah, fais-moi le logo, toute la charte, enfin le logo, d'une entreprise d'électricité. Mm. Mais qui me dit que mon voisin, qui est aussi électricien, qui a fait la même demande, va pas avoir un logo hyper.
Très.
Et qu'en fait, je me rends compte, je fais, ah bah ok, j'ai pas payé, enfin, mais donc du coup, bah. En fait, il y a 15 entreprises qui ont le même logo, quoi. Ouais, donc, un peu nul.
Oui, mais comme tu dis, uniformisation. Ouais. Mais clairement. Et puis, comme tu le disais au tout début, du coup, effectivement, en plus de ça, ça pose vraiment la question de, bah, donc, de vol éventuel de travail et de invisibilisation de la personne, de l'artiste dont on a pris le truc, quoi. Parce que du coup, bah, si l'intelligence artificielle, elle peut faire tout ça et que maintenant, elle peut créer à l'infini autant de nouveaux designs basés sur le style de l'artiste, etc. Bah ciao, l'artiste il sert plus à rien en fait, il a plus de travail et machin, ce qui n'est pas possible en fait.
Je pars du principe que bon, les métiers artistiques ne disparaîtront jamais parce que du coup on apporte une sensibilité par rapport au travail.
Quelle est la différence? Non, mais vas-y, c'est très bien, non, c'est fluide, mais anticipe. Quelle est la qu'est-ce qu'une intelligence artificielle n'aura pas que l'être humain aura?
Bah, il y a une question de sensibilité et un style précis. Enfin, du coup, là, on en a parlé vite fait, mais quand je revois les starter packs, là, du coup, ça a été un peu tout le monde l'a fait. Moi, ce que j'en ai tiré, c'est que le starter pack, les gens le faisaient vraiment pour montrer eux comment ils étaient différents que tous leurs petits objets. Mais sauf qu'en fait, à la fin, vu que ça passait, tout le monde avait le même parce que c'était le même style de figurine, le même style d'objet. Enfin, j'étais bon. Bah, du coup,
est-ce que quelqu'un se souvient du starter pack de quelqu'un spécifique?
Enfin, c'est ça. Et du coup, je trouve que ça va à l'encontre de la trend de base.
Et donc,
du coup, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'un illustrateur qui s'appelle Patouret, si je crois que j'ai dit bien. Qui en fait a pris ça à contre-pied et du coup a fait son starter pack illustré par lui-même. Et donc du coup en fait on est plusieurs à l'avoir fait pour montrer que au contraire quand c'est des artistes qui le font, il y a un grain, il y a un style vraiment bien précis.
Et puis il y a une réflexion qui est bien précise.
Et du coup là ils sont vraiment dans le but d'être là, ils sont vraiment tous différents et chacun a le sien. Enfin,
exactement. Ouais, c'est ce qui était le but de base. Quoi.
C'est ça. Et donc du coup ça montre aussi que des artistes sont hyper importants. Après t'as des pubs qui font des campagnes via l'IA, moi je trouve ça un peu problématique, sachant des fois en fait un peu les discours aussi qu'ils veulent avoir par rapport à leur marque, où est-ce qu'ils se positionnent aussi.
Oui non mais bien sûr, parce que c'est ça aussi le truc, c'est qu'il faut pas oublier que, je pense que beaucoup de gens ont posé ces questions-là aux intelligences artificielles qu'ils utilisent, mais des biais sociétaux que les IA vont perpétuer, étant donné que elles se basent sur des informations qui viennent de la société dans laquelle on est. Donc c'est-à-dire qu'avec une culture, avec les sujets sociaux qui sont toujours extrêmement forts et problématiques de sexisme, d'homophobie, de racisme, etc., etc., l'IA, encore une fois, ne fait que aller chercher des informations, les recouper. Et effectivement, elle fait un micmac qui est intelligent, mais évidemment que du coup, elle est juste influencée par ce genre de choses, etc., etc. Et puis
même sans ça, en fait, je pense que je vais faire un parallèle. Par exemple, quand j'étais à l'école, je vais faire le vieux réac. On n'avait pas tout ça quand j'étais plus jeune. Mais en fait, je trouve que c'est un peu comme si, quand nous, on devait faire nos rendus à l'école, on utilisait Wikipédia, on faisait juste des copier-coller.
Oui.
Enfin, ça n'a aucun intérêt.
Non, parce que du coup, tu ne réfléchis plus,
tu ne crées plus, quoi. Du coup, je sais plus où je voulais arriver avec ça. C'est qu'en fait, l'intelligence artificielle, je suis le premier à l'utiliser, j'essaie quand même quand j'en ai pas besoin, je vois par exemple les gens sur Twitter, parce que du coup il y a Grok maintenant sur Twitter.
Je n'ai jamais utilisé Twitter. C'est l'intelligence artificielle de Twitter.
Utiliser le moins possible Twitter. et donc du coup, il y a des gens qui ils voient une info, ils sont là, Grok, est-ce que c'est vrai? Non mais enfin.
Toi, avoir regardé.
Mais tout ça pour dire que je trouve que l'intelligence artificielle, je l'utilise, ça a des aspects positifs. Si ça a été inventé,
ça peut être un outil.
C'est un outil qui est
fort,
hyper intéressant. Mais moi, je pars du principe que c'est pas utilisé en tant que produit fini.
Non. Et c'est pas, comme tu l'as dit, c'est pas 100%.
C'est ça. En fait, il faut l'utiliser comme un outil qui peut nous amener
d'inspiration.
Par exemple, vous savez pas dessiner, mais c'est pas grave. Genre, utiliser l'intelligence artificielle pour vous apprendre à dessiner.
Pareil, apprendre des langues aussi. Je lui ai demandé, j'ai pas tenté encore, mais je lui ai demandé. Il m'a dit qu'il pouvait me remettre à niveau ou m'aider avec l'espagnol.
Genre, c'est hyper utile, mais enfin utiliser comme un outil pour vous en fait. Et je pense que déjà, enfin genre là je parle par rapport au dessin ou quoi, ou même en général, ça vous rendra tellement plus fier d'avoir fait un truc au final
par
de vous-même.
Bien sûr.
Donc voilà, mais du coup
ouais. Ouais, donc un outil, mais un outil, donc ça veut dire
pas
comme
un outil,
tu l'as
mais
dit,
pas un produit fini.
Voilà, comme tu l'as dit, c'est un outil, donc c'est une aide, c'est pas voilà. Et effectivement du coup parce qu'il y a tout le côté aussi où j'ai l'impression que du coup ChatGPT, enfin pardon, l'intelligence artificielle, c'est beaucoup juste de l'intellectualisation finalement, parce que c'est ça quand même qui fait tout le truc humain aussi, c'est qu'il y a des choses qu'on comprend pas, il y a des choses qu'on n'arrive pas à intellectualiser, des choses qu'on ressent, des choses qu'on sent, des choses peu importe, etc., etc. Et même si l'intelligence artificielle va réussir à trouver des données qui expliquent éventuellement des ressentis comme ça, etc., etc., à partir du moment où de toute façon aujourd'hui on n'a pas les réponses nous et qu'on les aura peut-être jamais, parce que c'est pas non plus le but, il y a, enfin comme tu l'as dit, ça ne peut pas servir de, comment on dit, de compétition à un être humain, quoi.
Et puis, en fait, juste quand on revient sur le côté artistique, imaginons que tu arrives avec une demande de projet, tu as 5 illustrateurs, tu auras des projets, mais
totalement différents.
Tu dis, vous me faites une pub pour le match de basket de je sais pas quelle ville, tu vas avoir 5 propositions ultra différentes. Et c'est ce qui, du coup, fait la richesse aussi, c'est qu'en fait, tu as un panel. Mais en fait, c'est surtout que. C'est déjà un métier qui est tellement précaire que du coup ça le précarise encore plus et en fait ça invisibilise des idées et des positionnements en fait qui peuvent être
super importants, ouais, originaux, peuvent apporter beaucoup de choses, voire révolutionner certaines choses.
Donc du coup, je suis le premier à utiliser l'intelligence artificielle dans mes illustrations, mais pour des recherches de composition.
Ouais, avec modération, pour t'aider dans ta création et ton inspiration, pas pour
quand
faire à ta
besoin.
Place.
Oui, voilà, c'est ça, parce que sinon je ne ferais pas ce métier.
Exactement, exactement.
Non, je le fais, enfin je fais ce métier parce que j'ai envie de dessiner, j'ai envie qu'on fasse appel à moi pour...
Pour toi, pour ton art,
ça, pour
tes réflexions.
Non, et puis
pour...
même, en fait, je trouve que c'est hyper important pour une marque d'avoir du coup un style hyper particulier qui peut la représenter, ou en tout cas sur un moment.
Un truc
pour
unique,
vendre,
ouais, bien
sûr. Un truc unique pour vendre ces choses. Enfin, je vois par exemple, il y a beaucoup de gens qui se remettent en question de toute façon par rapport à ça, parce que justement, il y a des gens qui essayent de sensibiliser.
Ouais.
Là, j'ai vu, c'est le youtubeur Joyka,
ouais.
Qui fait des vidéos qui en a sorti il n'y a pas longtemps, enfin il y a quelques jours, sur on doit deviner en gros le personnage, enfin l'IA en gros refait une personnalité connue, on doit retrouver qui c'est. Et il y a plein de gens en commentaire qui lui ont dit c'est pas ok. Parce qu'en fait, ils reprenaient des styles de dessin animé et tout,
d'illustrateurs. Ils faisaient tout ce qu'on vient de dire qui était problématique.
Et donc,
quoi.
Du coup, les gens lui ont dit justement.
Et les gens l'ont alerté en lui disant mec, réfléchis parce que vraiment pas bonne
et donc,
idée.
Du
quoi.
Coup, là, il a dit que le prochain, ce serait logiquement fait avec des artistes.
Oui, voilà. Oui,
donc, c'est chouette.
Top. C'est top.
Donc, le mieux, c'est qu'il se renseigne un peu avant de poster cette vidéo. Parce qu'il dit l'intelligence artificielle, c'est vraiment pas fait pour faire des projets pro. Je suis là, oui, mais enfin, bon. Ta vidéo, c'était ton projet pro.
C'est ça, c'est exactement ce que t'es en train de faire.
Voilà.
Ouais.
Mais du coup, c'est fait ce que je dis, ce que je fais. Mais bon, après, le principal, c'est que.
Qu'ils se remettent en question et qu'ils agissent derrière, bien sûr.
Donc, c'est un peu loin. Mais du coup, ouais. Enfin, en tout cas, je trouve qu'il y a. Surtout, du coup, il y a eu beaucoup de remises en question par rapport à ça.
Oui, c'est ce qu'on disait. Il y a un virage qui est vraiment en train de se faire.
J'espère.
Donc
soutenez les artistes.
Soutenez les artistes et les êtres
et
humains.
L'art local.
Et limitons quand même l'utilisation pour la planète, s'il vous plaît. On se fait une petite pause musicale et dernière pause musicale et pub avant de revenir pour quelques minutes. Donc, on va écouter Echo Sax numéro 4 de Caleb Arredondo, je le dis pas du tout avec un accent.
Arredondo. Thank you.
Bonsoir à toutes et à tous, de nouveau les voisines sur RVE 103.7. On est ensemble encore juste pendant 5 minutes. Je suis avec Mathieu ce soir. J'espère que vous avez apprécié notre conversation autour du coup du métier d'illustrateur, de l'art, des intelligences artificielles, son processus créatif, etc. On continue quand même, on n'a pas fini totalement, mais on approche de la fin et voilà. Tu parlais du coup tout à l'heure de tes réseaux sociaux sur lesquels tu mets en avant ton travail, etc. Ouais. Mais est-ce que tu as d'autres moyens et d'autres manières de te faire connaître, de vendre ton travail, etc., etc.
Alors déjà il y a le bon vieux démarchage et après sinon ça va être des marchés de créateurs, créatrices.
Des marchés physiques ?
Ouais, c'est ça. Où en fait ça va être des lieux, j'en fais principalement sur Paris et après je fais aussi le marché de Noël du Courbouillon.
Oh voilà.
Et du coup c'est des endroits où il y a beaucoup d'artistes, ça peut être des gens qui font du tufting, c'est du coup du tapis, de la céramique, du coup beaucoup d'illustrations.
Oui, toute forme d'art et d'artisanat.
En fait on va tous avoir nos stands et ça va être du coup des grosses journées, souvent c'est même sur un week-end.
Ouais.
Où du coup on va vendre, moi du coup c'est plus là des illustrations perso, c'est pas du tout des projets clients.
Ok.
Parce que du coup bah,
oui, bah non,
j'ai pas
y
à
a
vendre.
Pas,
Après ça dépend parce que par exemple sur mes stands j'achète moi du coup des puzzles que je revends sur mes marchés.
D'accord, ok. Mais t'as déjà fait aussi des ateliers pendant tes marchés par exemple de faire une illustration rapide pour un client
Non, j'ai pas fait sur les marchés. Mais du coup c'est vrai qu'en fonction des marchés que tu fais, tu vas avoir forcément un public qui va être différent et donc du coup ça peut te permettre en fonction des rencontres que tu fais, du coup, de potentiellement avoir des nouveaux projets. J'avais fait un marché, c'était au domaine de Madame Elisabeth à Versailles.
Ok.
Et ça m'a permis, en fait, en rencontrant du coup quelqu'un, de mettre en place un projet avec cette personne-là par la suite pour son entreprise.
Et ça te permet de te faire des contacts.
C'est ça, et c'est différent parce que là, t'es tout de suite dans le contact humain.
Oui, c'est direct.
T'es pas dans le truc de...
démarchage professionnel.
Ça, même juste l'écran, l'image des réseaux sociaux, peut-être que je peux envoyer, que je maîtrise. Enfin, en vrai, je sais pas.
Que tu maîtrises oui, comme tu peux, quoi.
C'est
oui,
ça,
oui.
Ouais, voilà. Parce que je suis aussi mon community manager. et donc, du coup, ouais, en fait, je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus humain et qui est, je trouve, important dans le milieu artistique. Enfin, s'il n'y a pas d'humain dans l'art, on ne faut pas le faire. Enfin, donc, voilà. Et du coup, je trouve que c'est hyper important et ça permet encore en plus de ça de quitter un peu ce côté du métier très solitaire, rencontrer du monde et en plus de ça, rencontrer du coup les voisins de stand qui sont
aussi,
dans le même univers,
milieu,
ouais, c'est ça. Du coup, c'est hyper
enrichissant, j'imagine. Ouais.
Et donc, du coup, je sais que là, j'ai limité un peu, mais j'en fais de moins en moins. Mais je fais du coup le marché de Noël du Courbouillon, du coup à Rambouillet. Et si jamais il y a une fresque que j'ai dessinée pour la première,
là-bas au Courbouillon,
du coup à l'entrée, en bleu et dans un bleu et rose. Et donc, du coup, je fais le marché de Noël du Courbouillon. Et après, j'en fais genre deux ou trois, sinon sur l'année à Paris, il y a le
T'en as un qui arrive bientôt ?
Alors, j'espère qu'ils vont les ressortir pour que du coup je puisse postuler. Mais c'est l'année dernière, j'ai fait le MOG, c'est le marché d'objets graphiques. C'est fait par le magazine Étape.
Ok.
Qui est un magazine de graphisme, et en tout cas d'objets qui a été... toute l'équipe a changé il n'y a pas si longtemps. Et après, sinon, ça va être les puces de l'illustration. Qui a un gros marché. L'année dernière, c'était la 12e édition à Bagnolet, si je dis pas de bêtises. Mm-hmm. Où là, c'est vraiment un peu la crème de la crème. Enfin, j'aime pas dire ça, mais
non,
du coup...
Non, mais un autre public,
c'est
une autre population, une autre culture.
C'est le festival de Cannes de l'illustration, quoi. Donc, du coup, j'aimerais bien le refaire cette année, parce que c'est quand même très sympa.
Oui,
Donc,
mais
voilà.
C'est un autre univers.
Ouais, c'est ça. Donc, non, c'est vraiment très, très chouette, les marchés. Et puis, même en tant que visiteur, je trouve que c'est une ambiance qui est hyper particulière.
Ça doit
en
être
fait,
très sympa.
C'est une expo un peu limite gratuite, à ciel ouvert. Donc, c'est vraiment super chouette.
Non, ça doit être vraiment cool. Ok.
Donc, je recommande si jamais.
Si on veut revoir ton travail ou tout simplement, rencontrer des artistes et puis passer un bon moment autour de ça. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux ?
Alors, moi, du coup, ça va être sur Instagram, Facebook, et LinkedIn, si jamais. et par le mail même, je peux donner si des gens sont intéressés. non, en vrai, du coup, mon Instagram, c'est obsession.d. obsession.art, D comme la lettre.
Ok.
Obsession d'art. Et donc, du coup, voilà. Sinon, je pense que si vous tapez Mathieu Le Ouénen en dessous de mon compte perso, derrière mon compte pro.
Mathieu Le Ouénen.
Le Ouénen. Ah ouais, en plus, c'est tout aussi compliqué. Alors, c'est L-E. Espace H-O-E-N-E-N, merci la Bretagne. Donc voilà, et vous pouvez, si jamais vous êtes même intéressé, il y a ma boutique, enfin mon site internet aussi en lien. Enfin mon site internet c'est mathieulewenen.com. Et donc du coup vous avez tout un
peu
un résumé de mon travail et puis même une partie contact.
Donc obsession d'art avec des points entre les chaque. Mots. Et... Ok, okay ben, donc, voilà. Merci beaucoup à toi.
Bah non mais c'est moi qui vous remercie de la super invitation dans les locaux de RVE.
J'espère que donc, vous avez passé un très bon moment avec nous pour ce retour. On se retrouve dans 2 semaines. Et puis bonne soirée, n'oubliez pas la POR de 21h à 22h.
Et soutenez les artistes.
Et soutenez les artistes. Bonne soirée.
Bonne soirée, ciao.